Bonsoir et bienvenue dans la forêt des possibles. Vous êtes en direct ce mercredi 10 septembre, en ce jour de mobilisation nationale, et ici on salue les grévistes. Vous êtes en direct donc de 19h à 20h sur Radio Galère au 88.4. Cette émission sera rediffusée demain entre 9h et 10h et disponible très rapidement sur Spotify. Vous le savez, chaque semaine, nous tendons le micro à celles et ceux qui transforment Marseille pour la rendre plus résiliente, inclusive et solidaire. Nous souhaitons que chaque auditeuriste puisse, à l'instar de nos invités, trouver sa juste place dans ce monde et rejoindre les jeunes pousses, les arbres centenaires ou les buissons touffus qui peuplent la forêt. Ce soir, arrêtons-nous dans une clairière particulière. Ici, on s'active, on tisse, on maille, on relie des gestes et des savoir-faire, on redonne un souffle à ce qui semble usé. Le bois ancien, fissuré, n'est pas jeté, mais réparé, rénové, réhabilité. Car c'est ainsi dans la forêt, rien n'est jamais perdu, tout redevient ressource. Sous nos pas se tient ce réseau invisible, discret, vital, le mycélium. Ces filaments souterrains relient les arbres, font circuler les ressources et maintiennent l'équilibre de l'écosystème. Cette métaphore interminable, c'est pour introduire la coopérative technique de la rénovation et réhabilitation écologique. Dans le milieu, on dit plutôt co-auteur. Avec nous ce soir, deux authentiques chanterelles, Lucas Zoufik et Thomas Fillot. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir, nous sommes aussi accompagnés en régie de Félix.
Bonsoir.
Salut Félix, et cette émission a été préparée par Mathieu Cheminal.
Bonsoir Jeanne, bonsoir Lucas, bonsoir Thomas. Et Jeanne, dis donc, quelle poétesse à chaque fois, des introductions incroyables. Alors effectivement, on est avec Lucas Zoufik, qui est porteur du projet Co-Auteur au sein de l'association Amerma. Et Thomas Fillot, toi tu es économiste du bâtiment et tu es président de Co-Auteur. Donc qui va devenir une coopérative, on va en parler ensemble. Donc Co-Auteur, qu'est-ce que c'est? C'est, comme on le dit, une coopérative en préfiguration pour l'instant, qui va rendre la rénovation écologique du bâti plus accessible, plus compétitive et collective. Alors on va tout de suite commencer avec le moi, avec votre parcours personnel, votre parcours d'engagement personnel et vos déclics. On va commencer par toi, Lucas. Quel est ton chemin personnel vers la transition écologique et le bâtiment durable? Je sais que tu étais ingénieur naval. Comment s'est produit le switch?
Oui, c'est vrai. Et un parcours pour devenir salarié de Amerma depuis ingénieur naval, c'est vrai que c'est pas forcément commun. Donc ingénieur de formation, ingénieur naval, j'ai travaillé quelques années dans le domaine du bâtiment, de la construction navale.
Des formations professionnelles.
Oui, ça y est, j'anticipe. Dans le domaine de la construction navale. Et puis le déclic, il est venu tout simplement, je dirais, avec l'accumulation d'articles sur les crises environnementales. Et je me suis dit quand même, c'était un article tout bête du Guardian qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui disait 99% des scientifiques disent que, etc. Et je me suis dit quand même, j'ai une formation scientifique, faudrait que je m'intéresse un peu à ce que ces 99% de scientifiques disent, quoi. Et là, ça y est, j'avais mis le doigt dans l'engrenage et c'était parti. Donc, schéma classique toutes les étapes du deuil, jusqu'à me dire, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, ça a été assez rapide. J'ai quitté mon emploi de l'époque qui n'avait pas trop de sens, en tout cas qui participait à une chaîne que je trouvais délétère, disons. Et puis après, ça a été un gros questionnement sur qu'est-ce que je voulais faire. Et puis j'ai pris le temps de me poser, d'explorer un peu quelques voies. Notamment, pendant 3 ans après, j'ai participé aux actions d'une association qui est aussi organisme de formation qui s'appelle le Campus de la Transition, pour lequel j'ai accompagné des équipes d'enseignants-chercheurs à l'université à inclure ces sujets de transition écologique et sociale directement dans l'enseignement supérieur. En parallèle, je me suis intéressé à des sujets sociaux, démocratiques, pour la transition écologique. J'ai notamment écrit une bande dessinée sur la Convention citoyenne pour le climat, qui s'appelle À portée de main, pour laquelle je suis déjà passé sur cette émission. Et tout ça m'a amené à Amerma, au bout de mon parcours finalement pour le campus de la transition, puisque mon action se situait plutôt à Paris, et comme je disais, je formais des enseignants-chercheurs qui allaient former des étudiants à potentiellement mettre en œuvre. Donc j'avais un besoin de local et j'avais un besoin de concret. Et je suis arrivé à la création de Amerma finalement pour essayer de développer une production locale qui soit vraiment utile aux besoins du territoire et de ses populations. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais dans le bâtiment, mais aussi dans d'autres secteurs. Finalement, on a une approche qui est assez transversale et qui correspond bien finalement à mes intérêts, à ce que j'aime faire. J'adore passer d'un sujet à l'autre et voilà. Et aujourd'hui, je me régale.
Et on parlera de ces autres secteurs tout à l'heure. En tout cas, vous l'aurez compris, Lucas est un multipotentiel. On va passer à Thomas. Thomas, toi, tu es économiste spécialiste donc du bâtiment. Qu'est-ce qui t'a conduit, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre Coeter? Comment tu es arrivé là?
Alors, je vais moduler un peu, je ne suis pas économiste, je suis devenu économiste par la force des choses, par mon parcours. Je suis ingénieur aussi, généraliste, avec une spécialisation dans le bâtiment. Je suis à une école à Lille, généraliste avec spécialité bâtiment, qui s'appelait HEI. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans des grosses entreprises de bâtiment, ce qu'on appelle conventionnel, avec des pratiques conventionnelles, du béton, des matériaux industrialisés, du placo, etc. Dans des grosses machines, des très belles entreprises. À chaque fois, je ne crache pas dans la soupe. Et j'ai appris énormément de choses extraordinaires dans la manière dont on pilote des opérations, des grosses opérations. Parce que le monde du bâtiment est très passionnant et très intéressant. Donc j'ai enchaîné plusieurs expériences à chaque fois de 5 ans, une chez Rabault-Dutilleul dans le Nord, une chez Baudin-Châteauneuf en région parisienne, une chez GCC dans le Sud. Après j'ai fait une grande diagonale des fous pour, avec ma femme marseillaise, atterrir finalement à Marseille. Et donc voilà, je travaillais en tant que conducteur travaux. Donc le conducteur travaux, c'est celui qui pilote les chantiers. Au départ dans le gros œuvre, donc dans la structure, béton des bâtiments, et puis au fur et à mesure sur des chantiers en ce qu'on appelle tout corps d'État, en entreprise générale, où je pilotais du coup tous les corps de métier de l'acte de construire. Voilà, au bout de 15 ans, c'est vrai que c'est des métiers, la conduite de travaux, qui sont éprouvants, qui demandent beaucoup d'énergie. J'ai une famille avec des enfants, etc. Et j'ai ressenti le besoin de faire un peu autre chose et de sortir de ces grosses machines qui étaient assez pressurisantes, mine de rien. Et j'ai rejoint un architecte pour développer la cellule maîtrise d'œuvre d'exécution de ce cabinet d'architecture. La maîtrise d'œuvre d'exécution, en fait, il y a les architectes qui conçoivent et le maître d'œuvre qui réalise, en gros, qui transforme le projet de l'architecte en concret. Voilà, donc moi, j'ai développé cette cellule-là. Et quand on a le parcours que j'ai de conducteur travaux, qu'on fait de la maîtrise d'œuvre sur 90% c'était des logements collectifs à Marseille, donc des grosses barres d'immeubles toujours en béton, etc. Donc ça, c'est de la maîtrise d'œuvre. L'économie du bâtiment, je le suis devenu parce que j'avais une parfaite maîtrise des coûts des différents ouvrages, que ce soit dans le gros œuvre, dans tous les lots, etc. Donc l'économie du bâtiment, c'est une de mes casquettes. Et la dernière de mon métier, c'est l'OPC, ordonnancement, pilotage, coordination. Donc c'est coordonner en gros les différents intervenants qui interviennent en chantier pour arriver à gérer, comment dire, le délai des opérations. Voilà. Donc c'est plusieurs casquettes dans la phase réalisation de chantier. Donc ça... J'étais maître d'œuvre chez Technipôle Sud à l'époque. Et il y a 3 ans, pour des raisons personnelles, je me suis dit, tiens, il faut que je suis foncièrement attaché à la nature et à autre chose que le béton. J'ai plein d'activités annexes, beaucoup plus sensibles, on va dire. Et voilà. Donc, je me suis dit, je vais créer une entreprise qui s'appelle Aiki. Aiki du japonais Ai, Union Ki Énergie, donc l'union des énergies, où je suis en train de m'épanouir pleinement parce que je fais piloter et je fédère un peu des énergies multiples autour de moi, donc les architectes, les maîtres d'ouvrage, les entreprises, pour des projets communs. Et voilà, donc Aiki en gros est parti de là. J'avais amorcé il y a 4-5 ans des formations un peu spécifiques dans le bois, dans les enduits à la chaux, dans la terre crue, etc. Tous ces matériaux écologiques vertueux, de manière à positionner en gros dans un créneau qui me parlait beaucoup plus. Donc voilà, je mets maintenant mes expériences et mon expertise, en particulier sur l'économie, au service du développement de ces filières constructives plus vertueuses.
Alors justement, quand on parle de rénovation écologique, on parle de, tu nous as cité la terre crue, c'est quoi les matériaux, c'est quel type de matériaux ?
Eh ben alors, il y en a, encore une fois, j'ai pas l'habitude d'une de cracher dans la soupe et de renier mon parcours. Et il y a le béton, beaucoup de gens qui sont dans la construction écologique sont très engagés, entre guillemets, et disent non, Niette, il faut zéro béton, zéro ciment, zéro matériaux transformés. Il y a des vrais puristes de la construction écologique.
D'accord.
Moi, je suis plus modéré. Mmh. Je suis dans un rôle où je me dois d'accompagner en gros cette transition.
D'accord.
Et donc, il faut que j'arrive à accompagner les gens et à les faire bifurquer. Et pour ça, je peux pas me permettre de tirer un trait complet sur toutes les autres manières de faire qui sont tout à fait bonnes. Chaque matériau, en gros, doit être à sa place. Quand on construit, quand on est architecte, il faut mettre le bon matériau au bon endroit. Voilà. Donc le béton en génie civil pour faire des ponts, pour faire des ouvrages un peu compliqués, des descentes de charges un peu lourdes, etc. Le béton a vraiment sa place. Dans d'autres cas, pour gérer de l'isolation thermique, du confort thermique, de l'isolation acoustique, du confort acoustique, de la qualité de l'air, etc. Dès qu'on va justement chercher des matériaux géosourcés, biosourcés, on ramène énormément de potentiel de matériaux qui permettent de prendre soin de l'environnement. Voilà. À la fois de prélever de moins de ressources et de dégager plus de gaz à effet de serre quand on coule du béton, qu'on fabrique du ciment. Le ciment, c'est très consommateur en énergie, et effectivement quand on travaille avec de la pierre, de la terre crue, du bois, du béton de chanvre, c'est des matériaux qui nécessitent peu de transformation et qui du coup sont moins impactants.
Merci pour la précision et pour nos auditeurs, auditorices. Qu'est-ce qui vous anime chacun dans ce projet de coopérative? C'est quoi votre déclic là? Vous en avez un petit peu parlé, mais quelles sont les valeurs qui vous animent? Est-ce qu'il y a...
Je vais commencer peut-être parce que ce projet, il a été à l'initiative de Amerma et de son président David Benaïm, que je salue s'il nous écoute. Mais avec Amerma, on est un peu persuadé qu'il y a tout un tas d'acteurs du territoire qui proposent des alternatives vertueuses à des pratiques conventionnelles délétères, en gros. Et ce, dans tout un tas de secteurs, et notamment à Marseille. Marseille, c'est foisonnant de petites initiatives qui ont du mal à passer à l'échelle, quoi. Et nous, avec Amerma, on s'est un peu spécialisé, de fait, dans la mise en commun de ces structures vertueuses et de ces énergies qui vont dans le bon sens, pour leur dire, bah, on va vous aider, en fait, à structurer une filière et à passer à l'échelle. Et donc moi, ça m'anime à fond. Je ne suis pas spécialiste du bâtiment. Comme je disais, on travaille sur d'autres secteurs, de la logistique, du textile. J'y connais pas spécialement grand-chose. Mais je pense que je suis de nature curieuse et j'aime bien apprendre des trucs sur ces secteurs-là. Mais surtout, ce qui m'anime, c'est d'aller chercher ces gens qui ont des idées incroyables, de les mettre ensemble et de les faire collaborer et de voir chez eux l'intérêt qu'ils peuvent trouver dans cette mise en commun, de se dire, bah, en fait, j'avais jamais eu le temps de prendre du recul et de me pencher sur ça, et parce qu'un tel ne fait pas exactement comme moi j'aurais envie de faire, etc. Ils n'ont jamais eu la capacité finalement de... Et ils avaient besoin de Amerma ou de ce qu'on peut faire pour se structurer, justement, et ça, j'adore. On a accompagné ce collectif, ça fait plus d'un an, à peine plus d'un an, et on a vu une évolution qui est incroyable. J'adore animer ce genre de collectif et organiser une montée en compétences, pas des coopérateurs, quoi, mais de la coopération. Ensemble, on voit d'un coup une... C'est pas une agglomération, une accumulation, mais vraiment une fusion quoi, qui se crée. Et
c'est l'émulsion liée à la communauté.
Une émulsion, une synergie qui est finalement Enfin, le résultat est plus important que la somme des individus ou des structures qui sont mises ensemble. Et ça, c'est incroyable. Et surtout, c'est fait dans une dynamique de se dire bah, comment on peut vivre mieux sur notre territoire aujourd'hui et puis surtout dans le futur, quoi.
Et alors toi, Thomas, je crois qu'il y a des chantiers marquants. Est-ce que tu peux nous en dire plus
ouais, alors,
qui t'ont amené ici?
Effectivement, il y a un événement qui s'est passé il y a... Ça fait combien de temps? 4 ans 5 ans 4 ans. Il y a un événement marquant qui m'a fait questionner et qui est assez révélateur de la crise dans laquelle on est, parce que le monde du bâtiment est en crise pour plein de raisons. Je veux pas, le but n'est pas de les lister ici, mais globalement, là, le monde de la convention conventionnelle, en particulier le logement collectif, les promoteurs qui font des centaines et des centaines et des centaines de logements en neuf dans des endroits où y a un patrimoine bâti existant qui est énorme et qui est mal habité, entre guillemets, il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Et un des déclencheurs qui m'a fait un peu basculer et qui a précipité les actions que j'ai menées après, c'est l'effondrement de la rue de Bagne, les immeubles de la rue de Bagne, sur lequel l'architecte avec qui je travaillais dans mon métier, enfin dans mon entreprise précédente, faisait partie du collège d'experts qui a analysé les causes de l'effondrement de ce bâtiment-là. Et moi, j'ai suivi de près cette expertise. Et j'ai vite vu que dans les analyses, c'est que l'entretien des bâtiments qui étaient de Marseille était soit par les syndics, soit par les propriétaires eux-mêmes, mal gérés, mal entretenus. Et quand ils étaient entretenus, ils étaient faits pas avec d'une les entreprises forcément compétentes pour, pas forcément avec les bons matériaux, etc. Donc il y a une méconnaissance des bonnes pratiques pour traiter le bâti ancien qui a fait que ce bâtiment, il est tombé. Voilà, il y a eu des réseaux d'eau en sous-sol. Bref. Donc ça a précipité. Je me suis dit, finalement, si on veut bosser en local à Marseille, dans une économie circulaire, il faut réfléchir à reprendre soin justement de notre patrimoine bâti et de le réhabiliter. Voilà, donc la rue de Bagne, ça a été un premier déclencheur. Là, je me retrouve à piloter le chantier là, qui est en train de démarrer. Là. Donc, c'est assez rigolo. Je suis l'OPC de ce chantier. Et parallèlement, je suis aussi dans une équipe avec un ami architecte dans la reconstruction de l'immeuble qui s'est effondré également pour une raison autre. C'était une explosion de gaz, rue de Tivoli. Et l'immeuble de rue de Tivoli, on a le permis de construire qui est accordé, etc. Et je me suis servi, entre guillemets, du retour d'expérience de pourquoi est-ce que la rue de Bagne était tombée, pour proposer un mode constructif pour ce bâtiment-là qui était respectueux, en gros, des pratiques de l'époque. Et en plus de ça, comme... Et c'est là où tous ces matériaux dont on parle là, le bois, la pierre, c'est des matériaux qui sont travaillés, ce qu'on appelle en filière sèche. D'accord. Et les matériaux en filière sèche, quand on fait des chantiers en filière sèche, ils sont moins impactants. Au-delà de l'impact environnemental global, les nuisances apportées par un chantier conventionnel en béton, elles sont assez nombreuses, ça fait du bruit, on coule du béton, on utilise de l'eau pour laver les toupies, ça dégueule dans la rue, etc. On vibre le béton, donc ça fait du bruit, les chantiers durent un peu longtemps, il y a beaucoup de matériel. Voilà, les chantiers en filière un peu sèche, parce que la rue Tivoli, on va la reconstruire en bois et pierre. On va faire une façade en pierre massive et tout le bâtiment en bois. Comme à l'époque, les bâtiments de Marseille de l'époque, bâti pierre, plancher bois, c'est le bâti traditionnel, le trois fenêtres marseillais, il est construit comme ça. Donc on s'inscrit dans une continuité de la construction traditionnelle. Okay. Voilà. Et comme on reconstruit en filière sèche, ça a été un des arguments majeurs pour faire accepter ce mode constructif plutôt que du béton, parce que vis-à-vis du traumatisme causé par l'effondrement de l'immeuble, bah, cette manière un peu plus douce de construire a finalement été mieux accueillie. Voilà.
Et alors, avant de passer à cette coopérative en construction et que vous nous disiez un peu où vous en êtes, ma prochaine question, c'était, tu nous en as un petit peu parlé, mais moi, quand je me balade à Marseille, je me rends compte je pense, comme pas mal de gens de l'état du bâtiment, et encore de l'état du bâtiment dans le centre. Mmh. Donc voilà, parce que j'ai la chance de vivre dans le centre, mais qui est quand même particulièrement dégradé. Pourquoi c'est un enjeu crucial, particulièrement à Marseille, cette rénovation écologique? Enfin, je me dis qu'en fait, il y a un terrain de jeu, un boulot immense, en fait, dans une ville comme la nôtre, dans la deuxième ville de France.
Oui, il y a effectivement un boulot immense. Aujourd'hui, il y a des dispositifs, on va dire, ou des structures qui ont été mises en place pour essayer de répondre à ce besoin qui est incroyable. Donc, par exemple, une société publique locale d'aménagement à laquelle participe la ville, la métropole, qui essaye justement de pousser cette rénovation du bâtiment et de pousser aussi, et c'est intéressant, de pousser des pratiques vertueuses quoi, pour cette rénovation. L'enjeu de rénovation du bâtiment à Marseille, il agit à plusieurs endroits. Déjà, c'est un enjeu social qui est énorme. Aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties depuis 2015, donc même avant l'effondrement de la rue d'Aubagne, qui pointaient le fait qu'à Marseille, il y avait 40 000 logements insalubres. C'est assez énorme. Qu'il y a une sous-occupation des logements. On a une augmentation des prix du bâtiment et des loyers qui est incroyable. On a une demande qui est forte, une offre qui est réduite parce que beaucoup de bâtiments ne sont pas occupables. Donc ça, c'est un enjeu social qui est fou. Le bien se loger, c'est hyper important. Si je peux faire un parallèle avec justement ce sur quoi j'ai travaillé avant, la Convention citoyenne pour le climat, il y avait 5 thématiques principales. Se loger, c'était une grande thématique. Voilà, donc c'est une des thématiques principales au niveau social. Et ensuite, il y a aussi tout un côté culturel et patrimonial. Thomas en parlera bien mieux que moi, mais le Trois Fenêtres marseillais, c'est un bâtiment typique de Marseille, ce qui fait aussi notre identité du bâti, et c'est important de le préserver. Marseille ressemble aujourd'hui à Marseille, c'est-à-dire à aucune autre ville en France, aussi par son bâti qui est spécifique, qui est construit avec des techniques et des matériaux locaux. C'est important de préserver aussi ce patrimoine-là.
Alors, pour revenir sur Coterre, sur votre coopérative donc en préfiguration, là, vous avez réussi à fédérer 70 structures. Comment ça s'est passé? Comment vous avez co-construit avec eux? Comment il sort de terre, ce projet commun?
C'est un peu ce que j'ai introduit tout à l'heure, dans le sens où, avec Amerma, comme je disais, on a cette volonté de faire coopérer des gens sur des secteurs donnés qui proposent des alternatives vertueuses, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, peut-être sur ce qui m'animait, mais sur les secteurs auxquels on s'intéresse, c'est pas n'importe quoi, c'est des secteurs qui sont forcément utiles à la population locale. Donc on va parler de bâtiments, on va parler de logistique urbaine, on va parler d'économie circulaire au niveau des déchets textiles, bref, c'est des choses qui s'intéressent au bien commun. On a cette volonté de faire coopérer et du coup, on est sorti avec ce projet. On s'est dit, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de petites structures, celle de Thomas, mais aussi plein de petits artisans, notamment, qui proposent des alternatives vertueuses sur le bâtiment. Et on s'est dit, on va leur proposer ce projet-là. Donc, on a fait une première présentation de ce projet qu'on a couvé chez Amerma pendant quelques temps. On est allé à la rencontre d'énormément d'acteurs dans la région, voir un peu ce qui se faisait, comment ça se faisait, etc. Et on a fait une première présentation début juillet 2024. Il y avait une quarantaine de personnes. Et ensuite, on a proposé de faire des ateliers de co-conception de ce projet, c'est-à-dire de partir un peu de notre première proposition et de dire on va la critiquer, l'amender. Et l'idée, c'est aussi que chacune des structures qui va collaborer dans la formation de ce projet puisse l'approprier et donc du coup puisse en être acteur, quoi. Donc on a proposé des ateliers de co-conception de la coopérative entre octobre et avril. On a fait 5 ateliers de co-conception qui était évolutif, quoi. Donc, c'est-à-dire on a évolué vraiment dans la définition du projet. Donc au début, c'était vraiment travail sur la raison d'être, sur les ambitions, les objectifs qu'on se fixait, les valeurs qu'on portait en commun. Puis ensuite, on est rentré beaucoup plus dans du technique. Donc, quels sont nos besoins en termes d'équipement de production, en termes d'équipement logistique, du coup, en termes de foncier. Quels sont, comment on définit un modèle économique ensemble, où est-ce qu'on va chercher le financement pour l'investissement dans ce lieu. Et ensuite, on a travaillé aussi sur l'organisation et la gouvernance. Ce qui était très gratifiant et ce qui nous a beaucoup motivés, c'est que sur les deux premiers ateliers, où c'était beaucoup de blabla, quoi, raison d'être, ambition, tout ça. On était une quinzaine de participants. Mmh. Et déjà, pour nous, amèrement, on se disait, bon, c'est pas mal, on part avec une base. Et ensuite, notamment via l'action de Thomas, mais aussi de ses 15 premiers participants, on a pu, quand on est rentré sur des sujets plus techniques, avant de rentrer sur des sujets plus techniques plutôt, on a communiqué auprès d'autres professionnels et notamment auprès des artisans pour justement parler de ces équipements techniques. C'est eux qui les connaissent le mieux, les équipements de production, le besoin en termes de foncier, etc. Et on a vu que ça a pris une ampleur qui était vraiment très chouette, puisqu'on a eu sur les trois ateliers suivants à peu près 45 participants. Et en tout, on a eu plus de 80, on a eu à peu près 90 participants sur l'ensemble des 5 ateliers. Et ce qui a vraiment concrétisé la formation de cette communauté suite à ces ateliers, c'était un timing incroyable, c'est que Euroméditerranée a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour occuper un lieu qui correspond parfaitement à ce qu'on avait défini de façon complètement utopique dans nos besoins en termes de foncier. Et la réponse, la candidature qu'on doit déposer pour cette AMI et pour pouvoir intégrer ce foncier, elle est ce vendredi. Donc en fait, on a eu quelques mois pour vraiment structurer l'action et se dire, ok, là, on passe des ateliers de co-conception, c'est sympa, c'est joli, on a réuni du monde, etc.
Ça va sortir de terre.
Voilà, à quelque chose, on a une opportunité concrète, il faut qu'on se mette en ordre de marche, quoi. Et cette communauté, elle n'est pas là juste pour faire joli, mais en fait, il y a une concrétisation qui est possible, qui demande qu'on travaille tous ensemble là. Et donc sur ces derniers mois, ça s'est vraiment structuré au départ en groupe de travail. Et puis en fait, finalement, on voit qu'on est au moins une trentaine à vraiment, vraiment travailler sur sur la définition de cette candidature. C'est incroyable.
Et alors, si vous le remportez, cet appel à manifestation d'intérêt, qu'est-ce que vous pourrez y développer? Pendant combien de temps? Comment ça marche?
Tu veux répondre, Thomas, ou je me lance?
Vas-y, lance-toi.
Ok. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt, c'est une mise à disposition d'un ancien point P de 2700 m², 3000 m² d'extérieur, donc exactement dans les typologies qu'on avait imaginées. Qui est vers Bougainville, et ça aussi c'est incroyable parce que c'est dans une des localisations préférentielles qu'on avait ciblées, puisque c'est à la fois proche du centre-ville pour pouvoir intervenir directement sur les chantiers, donc sur les chantiers de rénovation du bâtiment ancien à Marseille, que ce soit en centre-ville ou que ce soit plus proche des quartiers nord, etc. Proche des zones de chantier et en même temps proche des grands axes d'entrée dans Marseille, ce qui est hyper important puisque tout à l'heure on parlait des éco-matériaux locaux, donc matériaux bio ou géosourcés locaux, la pierre, le bois, le chanvre, la paille de riz, etc. Il faut bien qu'ils arrivent dans Marseille puisque effectivement on ne va pas les produire dans Marseille, donc il fallait que ce soit accessible. Et là, ce site, il est vers Bougainville, il est incroyable, voilà. Il est ciblé pour être une plateforme de réemploi. C'est le souhait de Euroméditerranée et nous, ça tombe bien parce que on a énormément de structures qui composent cette communauté Coater, cette association aujourd'hui Coater, qui s'intéresse au réemploi parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais le réemploi avec l'utilisation d'éco-matériaux, c'est une pratique écologique. Pour la rénovation du bâtiment. Donc, c'est-à-dire vraiment, au lieu de tout foutre à la benne, on va réutiliser un max de choses et ce qui est un peu fêlé, ce qui est un peu sali, on va essayer de le reconditionner pour pouvoir le mettre sur d'autres chantiers, quoi. Et donc, dans cette plateforme-là, ce qu'on aurait, c'est une mutualisation d'un espace, mais aussi une mutualisation d'équipements techniques et d'équipements logistiques entre plusieurs structures qui vont œuvrer pour le développement d'une filière de réemploi à Marseille et d'une filière éco-matériaux à Marseille. Un truc qu'on n'a pas dit aussi, et qui fait un peu le lien, c'est que les éco-matériaux, donc les matériaux biosourcés, géosourcés, c'est aussi ceux qui sont le plus facilement réemployables. Donc en fait, c'est aussi s'intéresser au réemploi dès la conception de la rénovation. Donc c'est hyper intéressant d'avoir sur le site à la fois une dimension éco-matériaux et une dimension réemploi. Ça va ensemble en fait. Voilà, à peu près, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais du coup, on accueillerait quand même pas mal de structures sur le site, qu'elles soient résidentes ou utilisatrices ponctuelles.
Pour rebondir un petit peu là-dessus et pour revenir un petit peu sur la question précédente aussi, qu'est-ce qui m'anime et pourquoi est-ce que ça me parle et pourquoi ça va marcher et pourquoi ça marche déjà ? C'est en gros la différence entre une économie classique dans laquelle s'inscrit le schéma conventionnel qui se rentre dans une économie assez classique où la rentabilité et le profit, entre guillemets, de ceux qui font est le mot d'ordre. Et le modèle sur lequel on travaille, qui est une économie circulaire, régénérative, qui en soi est tout à fait viable à long terme aussi. C'est pas non plus une approche de fêlés ou de gens qui sont déracinés. Moi, je suis comme très 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 pragmatique et inscrit dans le réel. Enfin, je suis ingénieur de base et donc voilà, quand même, je suis pas qu'un rêveur, même si je le suis un peu. Et ce qui est hyper intéressant, c'est justement de redéfinir en gros d'autres règles du jeu. Et un autre périmètre, un autre environnement qui n'existe pas beaucoup, parce que dans ce schéma classique où on a, c'est très pyramidal en fait, cette économie qui vise la rentabilité entre guillemets avant tout, où on a un donneur d'ordre qui a un projet, il va missionner un architecte, qui va missionner des bureaux d'études, qui va missionner des entreprises, et à chaque fois et à chaque strate de cette pyramide, en gros, le but pour chacun, pour chacune des entités, et d'essayer, entre guillemets, de gagner un maximum d'argent. Et dans cette réflexion-là, en gros, ça tire la filière vers le bas. C'est-à-dire que plus on en fait, et c'est ça qui est dingue, c'est que tout le monde du bâtiment, en gros, est dans ce schéma-là. Et la qualité, au fur et à mesure du temps, le fait de à chaque fois d'aller chercher les prix le plus bas possible, de marger le plus, et ben on perd de la compétence. On va travailler avec des matériaux industrialisés, avec des entreprises et des gens salariés ou pas intérim, ou des gens même qui viennent d'autres pays qui sont pas déclarés, etc., qui n'en ont absolument rien à secouer de ce qu'ils font. D'accord, et qui du coup se désintéressent, donc ils ne travaillent pas en qualité, ils ne travaillent même pas du coup en sécurité, etc. Et du coup, il y a une perte au fur et à mesure aussi de savoir-faire, en plus de la dégradation du bâti, quoi. Donc le fait de travailler sur de la réhabilitation qui nécessite du coup des matériaux biosourcés, écologiques, qui sont compatibles avec du bâti ancien, parce que les matériaux de l'époque, nos ancêtres, quand ils construisaient pour longtemps, etc. Ouais.
Non, mais je voulais te demander justement, ces savoir-faire, est-ce qu'on les a toujours en France, de ce que vous observez sur le terrain?
Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est pour ça que je voulais rajouter ça, c'est que le schéma dans lequel une grosse partie des acteurs du bâtiment sont, qui était la méthode conventionnelle, et ben tout plein de petits acteurs, tout plein de petits artisans, tout plein de petites entreprises qui ont des savoir-faire géniaux, des savoir-faire et savoir-être d'ailleurs aussi, je les glisse, des savoir-faire, et ben ils passent entre les mailles du filet de ces marchés-là, que ce soit des marchés publics ou des marchés privés, c'est comme des gros, en général, enfin, je résume un peu, mais c'est souvent des gros marchés sur lesquels il y a des consultations d'entreprises qui vont être faites, donc il faut avoir un minimum de compétences administratives, de gestion, etc., pour pouvoir répondre à ces appels d'un projet. Donc tous les petits qui ont un savoir-faire, des bonnes pratiques, mais qui n'ont pas ils passent à la trappe et ne sont pas consultés. Donc tout l'enjeu et tout ce qui est, je trouve, hyper enthousiasmant dans notre démarche co-terre, là, c'est d'aller justement chercher tous ces petites entités-là, alors petites ou moyennes entreprises, qui ou non répondent sur les marchés, mais en fait, on va chercher les petits, un peu de moyens aussi, et comme moi, pareil, je bénéficie de la connaissance des pratiques conventionnelles pour entre guillemets, les faire en sorte de pas le dupliquer, mais de pouvoir s'inscrire là-dedans pour pouvoir mettre en branle ça à une échelle un peu plus importante.
Voilà. Passer à l'échelle.
Après on voit aussi que sur ces compétences un peu traditionnelles, il y a un certain élan qui est actuel, quoi. De revitaliser un peu ces savoirs-là. Et des fois, ça vient de personnes qui ne sont pas à la base artisanes, mais qui se disent, mais en fait, il faut absolument qu'on continue à développer ces savoir-faire et qu'on continue à les transmettre, et du coup, qui se forment, alors qu'ils ne viennent pas du tout du milieu. Donc nous, on en a quand même quelques-uns dans la coopérative qui, à la base, sont des architectes qui imaginent certaines choses et finalement, ils ne trouvent pas la compétence pour le faire. Et donc, du coup, je vais me former et je vais faire moi-même. Et donc, du coup, ça, on en a quelques-uns donc, qui sont devenus architectes artisans. Mais on a aussi d'autres profils, on va dire plus éloigné à la base de l'objet bâtiment. Par exemple, le trésorier de l'association, lui, à la base, il travaillait sur l'étude financière de porteurs de projets dans une banque. Et il a dit, non, mais en fait, moi, je veux faire artisan enduiseur terre crue. Okay. Et voilà. Et
donc, du coup, dans capacité.
Voilà. Et donc, du coup, là, avec sa fonction de trésorier, il cumule ces deux compétences, quoi. Il est à la fois artisan et à la fois, quand même, il touche un peu les chiffres.
Très bien, on va passer tout de suite à la pause musicale, puisqu'il est déjà 7h35, et vous avez choisi comme musique Favelas de Guigui et Zacharose. On va donc, Félix, s'il te plaît, lancer Favelas, et on se retrouve dans quelques minutes sur Radio Galère. Et on est de retour sur Radio Galère avec Lucas Zuffic et Thomas Fillot de Cooter, qui est la coopérative technique de rénovation et de réhabilitation écologique. Alors, en transition vers le tout, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des premiers signaux positifs, des indicateurs qui vous montreraient que ce modèle que vous testez et que vous portez fièrement peut fonctionner ?
Bon, pour apporter un premier élément de réponse, c'est que nous, déjà, on ne s'attendait pas, avec Amerma, quand on a proposé ce projet, d'accueillir plus de 90 personnes / structures lors des ateliers de co-conception, quoi. Après, on a été très aidés, comme je disais à la fin, par le timing de cette AMI. Mais les signaux, ils sont nombreux. Donc, je disais le nombre de personnes, le nombre de fois où les mêmes personnes sont revenues aussi aux ateliers. Ils ne sont pas venus juste passer une tête et puis dire « bon, en fait, ça ne m'intéresse pas ». Il y en a beaucoup qui sont revenus et qui sont aujourd'hui, qui font partie des adhérents de l'association de préfiguration Cooter. Donc ça, déjà, c'est une grosse victoire. Thomas, tu pourras citer tout à l'heure des entreprises un peu costauds quand même qui font partie de cette coopérative. Ce qui est intéressant aussi, comme signaux forts, pour le coup, c'est que quand cette AMI est sortie, on était beaucoup de structures présentes à la présentation, justement, au lancement de cette AMI. Et moi, personnellement, je suis allé voir un peu tout le monde en disant « Bon, vous voulez répondre, qui veut répondre ?» Et tout le monde me disait « Ah, je sais pas, ça va être compliqué au niveau économique, c'est 5 ans d'occupation, c'est très peu. » Et en fait, justement, moi, j'ai réussi quand même, on a réussi avec Cooter à convaincre les structures de dire « Rejoignez-nous dans la coopérative. » En gros, plus on est nombreux et plus on sera solide, tant que, évidemment, ça reste dans le cadre qu'on a défini ensemble dans les ateliers. Et aujourd'hui, toutes les structures qui souhaitaient y aller, mais qui ne savaient pas trop comment, elles font partie de Cooter. Ce qui fait que, à notre connaissance, à part des structures qui sont vraiment hors de notre scope, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait vraiment des candidatures compétitives par rapport à ce qu'on va proposer. À tel point même, il faut dire Eiffage Construction, par exemple, qui est quand même une grosse structure, qui travaille avec Régie Service 13, penser un moment à se positionner. Ils auraient complètement la capacité d'y aller tout seul. On parle d'un énorme groupe. Et aujourd'hui, ils nous ont dit non, mais si vous y allez, nous, on n'y va pas. Mais par contre, on veut travailler avec vous sur le réemploi parce que vous allez développer des capacités. Et ça, personnellement, quand on a parlé avec Eiffage en leur disant voilà le projet, qu'ils nous disent ok, C'est hyper intéressant, allez-y. C'est un signal, c'est un signal fort.
C'est un signal fort. Et comment on fait pour rejoindre la coopérative? Comment ça se passe?
On envoie un mail. Non, oui, là il y a eu beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup de connaissances professionnelles, quoi. Et puis, on a un peu communiqué sur les réseaux. Donc en fait, sur ceux qui communiquent, il suffit d'envoyer un message. C'est quand même une gouvernance qui est assez partagée, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il y a pas.
Mais alors, ma question était plus, il faut prendre une part, c'est ça, dans la coopérative.
À terme, oui. Là, aujourd'hui, comme je disais, on est une asso de préfiguration. Ouais. Mais oui, à terme, il faudra prendre une part. Donc c'est-à-dire que ça fait partie du modèle économique. Peut-être on en parlera juste après.
Oui, carrément.
Mais effectivement, c'est une coopérative. Donc en fait, il faut prendre des part sociale, et donc il y a un prix de la part sociale, et ensuite en fonction de ce que vous souhaitez faire, ce que vous faites comme activité, vous allez être placé dans une typologie d'acteurs de la coopérative, et donc vous allez devoir prendre un certain nombre de parts sociales. C'est-à-dire qu'un individu qui veut soutenir l'action qu'on a, il va peut-être, il va être libre sur le nombre de parts sociales qu'il veut prendre. Quelqu'un qui va être utilisateur de la coopérative comme lieu de travail principal et quotidien, il va avoir, disons, je dis n'importe quoi, hein, mais une centaine de parts sociales à prendre. Quelqu'un qui veut utiliser le lieu deux fois par mois et pour faire un peu de stockage de matériaux, il va peut-être devoir prendre 30 parts sociales. Et donc, ça, c'est en construction. On est quand même bien avancé, je vais pas vous donner tous les chiffres parce que ce serait un peu long, mais voilà, c'est finalement assez classique dans la construction d'une société coopérative d'intérêt collectif, autrement appelée SIC.
Ouais.
Voilà, donc
je demande de la précision pour nos auditeurs et nos auditrices qui connaissent peut-être pas forcément ce modèle.
Oui.
Qui est finalement un modèle pour l'instant, il y a de plus en plus de coopératives, mais encore assez à la marge.
Oui, pour l'instant, c'est un modèle qui reste assez marginal, qui se développe de plus en plus. Après, on entend souvent parler des SCOP plutôt.
Ouais.
Notamment, récemment, il y a eu Duralex qui a été repris en SCOP. Pas loin de chez nous, une entreprise qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, c'est Scopti.
Ouais.
Scopti, il produisait tout l'ensachement de thé européen pour Lipton, et c'est à Gémenos, donc ils ont une usine qui est quand même assez gigantesque. Quand Lipton a dit hop, on délocalise, on va dans les pays de l'Est de l'Europe, les employés de Scopti ont dit non, c'est hors de question qu'on se retrouve tous sur le carreau, et au terme d'une lutte sociale intense et longue, ils ont récupéré l'usine et tous les équipements pour 1 euro symbolique et ils se sont formés en SCOP. Donc avec une redistribution du capital, il n'y a pas du tout de bénéfices qui sont faits, tout est réinjecté dans l'entreprise. L'entreprise appartient aux salariés, donc ça c'est le modèle SCOP, c'est celui qu'on connaît. Le modèle SIC, il a quelques particularités, notamment il implique des partenaires du territoire. Voilà, il y a cette notion d'intérêt collectif.
Local.
C'est pas juste une entreprise qui appartient à ses employés, mais il y a cette notion en plus d'intérêt pour le territoire.
D'accord.
Et puis c'est rigolo parce que là on est à la Friche Belle de Mai, la Friche Belle de Mai est montée en SIC. C'est le même modèle et c'est un modèle assez hybride et qui finalement peut aussi intéresser d'autant plus de monde parce que la particularité c'est que chacun, la SIC regroupe plusieurs entités propres, autonomes, chacun a son entreprise et prend des parts dans cette SIC. Donc, entre guillemets, c'est une aventure collective parallèle à nos entreprises respectives à chacun. Moi, j'ai Aiki et je vais prendre des parts dans la SIC. Il y a Actavista là, qui est une entreprise magnifique qui fait de l'insertion professionnelle là, pour prendre soin pour rénover des jolis monuments historiques marseillais donc qui seront coopérateurs.
C'est ceux qui ont rénové toute la citadelle et qui l'ont ouverte au public.
D'accord.
Ils rejoignent l'aventure Cotter. Donc il y a des jolies entreprises, des jolies entités, Rediviva qui animent tout le réemploi en région, etc., qui ont leur vie à côté, puis qui vont faire partie de l'aventure dans une entreprise où effectivement l'économie c'est pas des entreprises, je ne veux pas dire que c'est à but non lucratif, mais les quelques bénéfices qui seront faits et qui doivent être là pour faire vivre une entreprise, ben, sont intégralement réinjectés dans la structure. Et, voilà.
Et justement, ce modèle économique donc, qui repose sur la mutualisation, on l'a bien compris. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? Il y a de la location d'espace, tu me parlais d'une centrale d'achat quand on a échangé ensemble, de la formation, tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, tout à fait. Donc, une société coopérative, qu'elle soit d'intérêt collectif ou une SCOP, reste une entreprise avant tout. Donc, organisée en statut SA, SAS, SARL, parmi lesquels il faut choisir. Et donc, du coup, doit être viable économiquement. Donc, c'est effectivement le cas de Co-OTR. Il faudra qu'elle soit viable économiquement. La façon dont elle se structure aujourd'hui, c'est que Co-OTR, ça va être l'entreprise qui va mettre à disposition une plateforme partagée avec des équipements mutualisés. Donc, il y aura une équipe salariée, donc une équipe de direction, direction opérationnelle, direction administrative et financière. Il y aura une équipe pour s'occuper de tout ce qui est logistique, stockage, entrée et sortie des matériaux, entretien, achat, maintenance des machines. On a aussi voilà, quelque chose qui est assez intéressant quand même, je vais le placer, qui est une équipe dédiée à la recherche et développement sur ces pratiques et ces matériaux écologiques, que ce soit au niveau des matériaux, mais aussi au niveau des moyens de production pour les mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les écomatériaux ou même sur le réemploi, il y a assez peu de préfabrication, par exemple, où on a dans le collectif des architectes qui ont développé une machine pour découper une cloison entière plutôt que la démonter partie par partie et devoir la remonter. Cette machine, elle reste assez expérimentale. On aurait besoin de R&D sur la machine. Donc, voilà, R&D, machine, matériaux, ça, il faudra quelqu'un pour gérer ça au bénéfice des coopérateurs, quoi. Et donc, au-delà de cette, donc ces salariés, il faut les payer, le lieu, il faut le payer, etc. Et donc, effectivement, les activités rémunératrices de Co-OTR qui vont faire rentrer de l'argent, ça va être effectivement cette mise à disposition d'espace via, enfin, contre un loyer, une mise à disposition de machines contre un prix pour, enfin, voilà, leur utilisation, quoi. Qui sera déterminé. Et un des modèles qui est intéressant, c'est une centrale d'achat aussi. Donc la filière écomatériaux régionaux, dont on parlait juste avant, aujourd'hui, elle est naissante aussi, elle est fragile. Et donc une structure comme Co-OTR, elle pourrait permettre, en achetant en gros, de solidifier ces filières écomatériaux. Donc de faire une centrale d'achat écomatériaux, ce qui serait au bénéfice du coup de cette filière de production d'écomatériaux, mais aussi pour les toucher à un coût moindre que quand on les achète petit ballot par petit ballot, par exemple. Voilà, donc il y a cette partie centrale d'achat. Après, il y a une partie d'accueil d'organismes de formation. On disait tout à l'heure, on parlait pas mal de formation sur ces nouveaux métiers, qui sont en fait des métiers traditionnels, mais donc du coup de l'accueil de formation sur un plateau technique, au contact de professionnels. Et il y a enfin une activité, ce qu'on peut appeler opérateur ensemblier, ou en tout cas, en fait, l'idée, c'est que Co-OTR, son équipe dirigeante, puisse coordonner des réponses à des chantiers sur lesquels les coopérateurs, enfin les structures coopératrices, ne pourraient pas aller parce qu'elles sont trop petites, trop fragiles, etc. Et donc là, l'idée de Co-OTR, c'est de dire, ben, en fait, on a à disposition des architectes, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, des artisans, et ensemble, on va répondre à ce projet d'envergure. Ouais. Et donc, du coup, il faut coordonner cette réponse. Et ça, c'est une des possibilités que Co-OTR apporte, mais c'est aussi une activité rémunératrice.
Oui, bien sûr. Voilà. Ça me fait penser ça, oui, c'est ça, c'est un tiers-lieu, c'est un laboratoire d'innovation collaborative.
Voilà, et ce ne sera pas vraiment un tiers-lieu dans le sens où c'est quand même dédié à des structures professionnelles. L'accueil du public et notamment l'implication des habitants du quartier sera limité. Pour pas mal de raisons, okay. Des raisons de sécurité d'accueil, mais aussi, bah voilà, ce sera un lieu de production, donc bon... Il y aura un showroom, en gros, où on va pouvoir montrer des matériaux, où on va pouvoir montrer des techniques, ce genre de choses. Et il y aura probablement une petite aire d'accueil, cantine, voilà, pour
très bien.
Ouverte au public, quoi.
Alors, avant de passer à notre dernière partie sur la projection, hein, parce que le temps touche bientôt à sa fin, je vais vous poser une dernière question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et dans ce modèle qui est si précurseur, quel est votre avis? Comment on fait pour passer de la marge à la norme sur quelque chose d'aussi vertueux?
Ouais. C'est une excellente question. En fait, on a à la fois la chance de faire partie d'une aventure assez énorme qui peut d'une certaine manière nous dépasser, parce qu'on a un périmètre et un périmètre d'action et un champ des possibles qui est énorme. Donc toute la difficulté qu'on a, enfin que je ressens moi personnellement à mon niveau, c'est d'arriver à trouver, enfin la raison d'être on l'a, la logistique qu'on compte y mettre, elle est là, le modèle économique, globalement on sait là où on veut aller, mais il faut qu'on arrive il va y avoir des choix à faire, des orientations peut-être à prendre qui sont pas simples. Petit exemple tout bête, tout à l'heure on parlait de centrales d'achat où on disait bah tiens, l'idée serait effectivement d'aller, je prends l'exemple de tomates. Les tomates, c'est des matériaux qui a on va dire une grosse partie des sols marseillais sont faits en tomates. Pour l'instant il y a beaucoup de tomates qui sont jetées quand on fait des démolitions, elles sont balancées en décharge. Un des gros enjeux de Coater, c'est de mettre des outils en place, de trouver des outils, des méthodes pour rénover, remettre en état ces tomates et les remettre en service. Donc il y a le dilemme qu'on risque d'avoir, c'est d'avoir, on ne veut pas devenir, enfin à mon sens, il ne faut pas qu'on tombe dans une sorte de plateforme un peu déchetterie, stockage d'une quantité énorme de matériaux dont on ne maîtriserait pas les flux en entrée et en sortie.
C'est le gros point d'attention.
C'est un gros dilemme, mais pour moi c'est complexe de bien cadrer ce modèle économique, et à mon sens il faut qu'on arrive à rester dans un schéma local. Et c'est ça qui est chouette, c'est que dans les quelques partenaires qu'on peut avoir, quand je parle de partenaires, c'est maître d'ouvrage, donneur d'ordre, j'ai la chance de bosser avec un maître d'ouvrage qui me fait travailler sur 2, 3, 4 dossiers, qui est très engagé, et c'est le diocèse de Marseille, qui pousse énormément la construction écologique, le réemploi, etc. Ils sont terriblement précurseurs en la matière, et ça ne peut pas être insoupçonné, mais ils sont vraiment à la pointe de ça, et ils ont permis en gros le démarrage de cette aventure, et ils nous donnent l'opportunité du coup d'aller pousser ces notions de réemploi assez fort, et ils nous donnent aussi du coup des volumes de matériaux à réemployer qui sont assez importants. Donc l'idée, c'est à mes yeux quand même, de cette plateforme, c'est d'arriver à avoir des entrants, donc des matériaux qui seront identifiés de chantiers qui seraient déconstruits, et d'avoir en aval de la coopérative des opérations de chantier neuf, entre guillemets, ciblées en amont, qui nous permettraient de gérer les stocks, en gros, qui seront dans cette plateforme de manière consciencieuse, quoi. Faire raisonner, et voilà, de ne pas se laisser déborder par des tonnes et des tonnes et des tonnes de stocks dont on ne saurait pas quoi faire. L'idée, c'est de remettre en état des tomates, de mettre un outil, des équipes en place, mais dans un schéma économique viable. Voilà, c'est tout l'enjeu de la démarche.
Thomas a répondu sur les difficultés. Je vais peut-être répondre sur du coup comment on passe, à mon sens, de la marge à la norme. Tout simplement, c'est en montrant que c'est faisable et que ça marche. C'est quelque chose qui nous anime chez Amermain et qui du coup nous anime aussi chez Coater. C'est de faire en sorte que ces pratiques de rénovation écologique, mais aussi en fait tout ce qu'on va pouvoir proposer avec Amermain en structuration de filière, ça permette à tout le monde, en tout cas à une grande majorité de personnes, d'avoir accès à ces produits ou ces services vertueux. C'est-à-dire il faut que ce soit démocratisé. Si on a envie que ça passe à l'échelle et que ça devienne la norme, il faut que la plupart des gens puissent y avoir accès. Et donc là, en plus, on tombe le 10 septembre, jour de contestation sociale, où on dit on peut plus rien se payer. Ben, en fait, aujourd'hui, il faut que ces pratiques qu'on essaye de développer, elles soient compétitives, et qu'elles soient au moins à la hauteur des pratiques conventionnelles. Et c'est que, à mon sens, c'est que comme ça qu'on va arriver à faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès. Si on dit à un Marseillais aujourd'hui, bon, bah, tu peux rénover ton appart, ça va te coûter X 1000 euros, Tu vas le rénover avec du placo, tu vas le rénover avec des matériaux synthétiques, des dalles de faux plafond, j'en sais rien quoi, qui sont produites à partir de pétrochimie à l'autre bout du monde. Ou pour le même prix, tu vas pouvoir faire ça, mais avec de l'isolation qui est faite en paille de riz, en chanvre, avec des enduits terre, avec des tomates de la région, ou j'en sais rien quoi. Si on arrive à faire en sorte que ce soit compétitif, j'ai dit au même prix, peut-être que ce sera, allez, 3% plus cher, j'en sais rien, ce serait bien. Mais je pense que c'est comme ça qu'on passe à la norme, quoi.
Très bien. Eh bien, je vais laisser la parole à Jeanne pour une petite prospective, un juggle speed très speed.
J'ai une question donc à vous poser un peu sur la projection, histoire qu'on puisse conclure tranquillement. Je pense qu'il y a des gens derrière nous. Lucas, Thomas, ça ressemble à quoi dans 20 ans Marseille, si la rénovation écologique est devenue la norme, comme on en parlait? Ça ressemble à quoi pour les habitants en termes de gestes, en termes de confort ou de santé? Et aussi, ça ressemble à quoi pour les métiers, les gens de votre coopérative en termes de savoir-faire, de nouvelles pratiques? Est-ce que vous sauriez nous décrire un peu en quelques mots?
Si on fait ça très très rapide, c'est pareil qu'aujourd'hui, mais avec des logements occupés, voilà, et plus de logements à l'abandon et insalubres, des logements occupés, rénovés, avec des matériaux qui sont sains, qui sont bons pour la santé, c'est moins de clim, c'est moins de chauffage, c'est un meilleur confort thermique. Mais de l'extérieur du bâtiment, on va dire que ce serait la même chose, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du patrimoine, c'est un peu ce qui fait la spécificité de Marseille. Il faudrait qu'on arrive à garder ces bâtiments, ou en tout cas à les préserver un maximum. Et donc du coup, je dirais que dans 20 ans, si on réussit notre pari, c'est moins de déconstruction, plus de construction, plus de rénovation, moins d'étalement urbain et plus de rénovation, de la surélévation de bâtiments parce qu'on saurait faire. Et je laisse la parole à Thomas parce qu'il reste 30 secondes.
Marseille, c'est plein de villages, donc aussi retrouver une sorte de proximité, plein de petits villages qui sont avec une vie de quartier où les gens sont heureux de vivre, etc. Les gens qui ont le sourire. Pour avoir le sourire, il faut vivre dans des habitats qui sont agréables. Le côté agréable, c'est rigolo, mais quand on a construit un peu à l'envers depuis des décennies, depuis l'après-guerre, on a construit en béton en se rajoutant des couches d'isolation dans tous les sens, et on se retrouve maintenant à une époque où on est en train de déconstruire ça et de revenir à des fondamentaux, à des pratiques vernaculaires de l'époque. Mon fiston, il est en sixième, il a des cours de néolithique où dans son cours de néolithique, on voit qu'à l'époque, il construisait en bois avec de la terre, et à l'époque, c'était très malin, il se mettait à côté des rivières, donc il y avait un vrai, c'était intelligent, voilà. Et le bioclimatisme, l'architecture vernaculaire, le fait de mettre effectivement des occultations, des tentes, des arbres devant les fenêtres pour éviter que le soleil tape sur les vitres plutôt que de mettre de la clim pour rafraîchir, toutes ces pratiques qui sont peut-être un peu oubliées mais qu'on peut retrouver largement dans les pays du Maghreb, par exemple en Afrique, ils ont plein d'idées géniales, de la ventilation naturelle, plein de choses très belles, voilà. En 2050
sera chouette. Depuis un siècle on s'est coupé de la nature, et là l'idée c'est de se reconnecter,
retourner
avec des matériaux naturels, voilà.
Quelle merveilleuse conclusion. On va devoir laisser l'antenne. Merci beaucoup Lucas Zuffic et Thomas Fillot de Cooter. Et on se retrouve la semaine prochaine
avec la Convention des entreprises pour le climat.
La forêt des possibles sur Radio Galère 88.4. Merci Jeanne, merci Félix, merci à toutes et tous, et à la semaine prochaine.
Merci Mathieu,
merci. Au revoir.
Bonsoir.